France Musique. Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Dvorak s'installe à New York, c'est comme si vous y étiez. Voulez-vous accepter le poste de directeur du Conservatoire de musique de New York à partir d'octobre 1892? Stop. Voilà ce que contient le télégramme qu'Anton Dvorak reçoit en cette matinée du 5 juin 1891. Il en tombe presque de sa chaise. En bas du télégramme, la signature d'une certaine Jeannette Ferber. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Dvorak, déjà âgé de 50 ans, est une véritable gloire dans sa Bohême natale, comme à l'étranger. Certes, honneur, succès et voyages lui sont familiers, mais là, l'offre dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Un sentiment d'euphorie et d'angoisse le saisit en même temps. L'Amérique, New York le réclame, New York, rien de moins. Comment résister à cette promesse certaine d'aventure? En même temps, Dvorak se sent bien en Bohème. Comment songer à quitter sa chère ville de Prague, où il a enfin trouvé l'équilibre entre l'enseignement et la composition? Jeannette Ferber, qui a envoyé le télégramme à Dvorak, n'a pas hésité longtemps. Pour elle, Dvorak est l'homme de la situation. C'est lui qu'elle veut à la tête du Conservatoire de New York et personne d'autre. Le Conservatoire de New York, créé par Madame Ferber, est une institution toute jeune, mais il lui manque un rayonnement. Et surtout, il souffre de difficultés financières, malgré les milliers de dollars que Madame Ferber prélève sur sa fortune personnelle pour renflouer ses fonds. Pour elle, seul un compositeur d'envergure mondiale pourra faire briller son lustre. Et pour elle, ce compositeur, c'est Dvorak. L'offre faite au compositeur tchèque est alléchante. Dvorak signerait un contrat de 2 ans, dont 4 mois de congé, et toucherait 15 000 dollars sur une saison, à la fois pour enseigner, diriger la maison et donner des concerts incluant ses propres œuvres, des œuvres anciennes et des œuvres nouvelles que l'Amérique, qui sait, pourrait lui inspirer. Thank you. le directeur du conservatoire de Prague, auquel Dvorak est alors attaché, l'encourage. « Cher Dvorak, partez, foncez à New York, profitez-en. Je vous accorde un congé de 2 ans. » Celui-ci sait bien que la probable gloire américaine de Dvorak rejaillira sur son propre établissement et que, tôt ou tard, il reviendra à Prague. Dvorak hésite, ou fait mine d'hésiter. Ira-t-il à New York ? Il réfléchit, consulte ses amis, sa famille et étudie attentivement la proposition. Ça y est, il dit oui. Moyennant quelques conditions. Inquiet du coût de la vie aux États-Unis, il a, avant de partir, revu ses exigences à la hausse. Il touchera 20 000 dollars pour 8 mois, et c'est Madame Ferber qui paiera le voyage aux États-Unis, de même que ses frais de logement. Il dit oui, mais il espère bien ne pas regretter son choix. J'abandonne un milieu riche d'amitiés très chères. « Et je voudrais vraiment être content de ma décision », écrit-il à sa nouvelle employeuse. Sur le plan de l'amitié, Dvorak peut se rassurer. Outre-Atlantique, bon nombre de Tchèques installés à New York l'attendent avec une impatience brûlante et parleront au nom d'une communauté tout entière, tellement fière d'accueillir son héros dans le Nouveau Monde. Comme annoncé dans ses lettres, Anton Dvorak partira à New York avec sa femme Anna et 2 de leurs enfants, l'aîné, Otilka, âgé de 14 ans, et Tony, 9 ans. Les 4 autres resteront en Bohême sous la garde de la vieille grand-mère maternelle. Le 15 septembre 1892, les Dvorak quittent Prague et embarquent à Brême sur le paquebot Zale. 9 jours de traversée mouvementée les attendent pour rallier New York via Southampton. Mais suite à une épidémie de choléra qui sévit en Europe, une quarantaine retarde leur arrivée. Enfin, le 27 septembre, ils foulent le sol américain. Le compositeur est accueilli à Manhattan par le secrétaire du conservatoire, un certain monsieur Stanton, d'origine tchèque. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Le moindre détail a été planifié. Et l'événement bénéficie d'une large couverture médiatique. Les interviews pleuvent, car les journaux américains veulent tout savoir sur le nouveau venu, celui qui va redorer le blason musical de leur ville. « Dvorak n'est pas du tout intimidant », écrit le Musical Standard. « Il possède une grande dignité naturelle. Son visage n'est pas vraiment beau, mais son front est finement modelé. Il y a tant d'humanité dans ses yeux que lorsqu'il s'anime au cours d'un entretien, on ne peut oublier son regard. » Anton Dvorak, à l'époque où il débarque à New York, est un des compositeurs les plus renommés de sa génération. Né en 1841 dans le petit village de Nelaozeves, en Bohême, il a appris l'orgue, le piano, le violon, l'alto, et il a fait partie de l'orchestre du théâtre de Prague, où il a même joué sous la direction de Smetana. Vers 25 ans, il a composé ses premières symphonies, puis a abordé peu à peu tous les genres, piano, trio, quatuor, concerto, opéra, oratorio. Ses nombreux voyages l'ont conduit en Hongrie, en Allemagne, en Russie, sur l'invitation de Tchaïkovski, mais surtout en Angleterre, où le public s'est entiché de sa musique. Lorsque Janet Thurber lui poste son télégramme en 1891, Dvorak est un maître incontesté au sein du paysage musical européen, auteur de nombreux chefs-d'œuvre comme la 8e symphonie, le Jacobin, le trio Dumki. Évidemment, à New York, Janet Ferber ne lâche pas Dvorak d'une semelle. Elle l'a voulu et elle l'a, son cher Dvorak. Juste avant sa traversée de l'Atlantique, elle a eu le temps de lui faire passer un message. Pourquoi ne composerait-il pas une cantate à l'occasion du 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ? Ce serait parfait pour ses premiers pas américains. Dvorak a accepté, mais comme le texte a tardé, il a pris les devants et s'est lancé dans l'écriture d'un tédéum, un tédéum flamboyant qu'il a terminé avec fébrilité. Avant d'embarquer, il a glissé la partition dans ses valises. Le 21 octobre 1892, lorsque ce tédéum pour chœur, soliste et orchestre est créé au Carnegie Hall de New York, Dvorak dirigeant l'orchestre de Boston, le triomphe est mémorable, l'un des premiers du compositeur aux États-Unis. C'est le plus bel hymne rassembleur qu'on pouvait imaginer. Dans son discours d'inauguration, le mécène de l'orchestre vante deux mondes nouveaux, celui qui avait été découvert par Colomb et celui qui s'ouvre aujourd'hui à l'art musical. Le maître Anton Dvorak est là, présent, pour nous aider à accomplir cette tâche. L'Amérique en attend beaucoup et fonde sur lui de grandes espérances. À peine arrivé à New York, la gloire d'Anton Dvorak est quasi acquise. Reste à se mettre à la tâche, enseigner, diriger le conservatoire et continuer à composer aussi. Rechercher l'inspiration là où il la trouvera désormais, dans le Nouveau Monde, loin de son pays qui a tant nourri sa musique jusque-là. Au conservatoire, ses horaires sont assez stricts. Dvorak enseigne la composition les lundis, mercredis et vendredis, et deux fois par semaine, entre 16h et 18h, l'orchestration. Cela lui laisse assez de temps pour composer. Il peut par exemple terminer la musique de sa cantate américaine, The American Flag, sur un poème de l'américain Joseph Rodman Drake.
Thank you.
À Manhattan, les Dvorak logent d'abord à l'hôtel Clarendon, à l'angle de la 18e rue et de la 4e avenue, où ils payent $55 par semaine. Quelques semaines plus tard, ils trouvent une maison proche du conservatoire, au numéro 327 de la 17e rue, où William Steinway en personne vient un jour leur livrer un piano. Loyer mensuel, $80. Le conservatoire, lui, est situé au numéro 126 de la même rue. Et Dvorak traverse, chaque jour, le Stuyvesant Square pour s'y rendre. Il s'imprègne de la vie américaine, de la vie des rues de New York, de cet étrange melting pot culturel et de la vitalité qui s'en dégage. Il croise des minorités venues de tous les pays, des Allemands, des Irlandais, des Russes, des Hollandais. Il se mêle à la foule, pose des questions, se plonge dans ce bain vivifiant et découvre l'énergie d'une ville entièrement tournée vers l'avenir. Une ville debout, comme dira bientôt Céline. Une ville qui consume son histoire d'hier dans l'irrépressible frénésie des lendemains. Dvorak, humble fils d'artisan venu de la vieille Europe, n'en revient pas.
Sometimes I feel like a motherless child.
La vie du peuple noir et sa musique captivent le compositeur. Le voilà qui vante auprès du New York Herald la grande valeur des mélodies noires. Les thèmes, si beaux et si variés, sont le produit du sol, dit-il. Ce sont les chansons populaires de l'Amérique et vos compositeurs doivent s'en inspirer. Dans ces mélodies, je découvre tout ce qui est nécessaire pour une grande et noble école musicale. Ces mélodies sont les plus frappantes et les plus attrayantes qu'on puisse entendre de ce côté-ci de l'océan. Si la simplicité et le parfum particulier de ses chants le séduisent, Dvorak est parfois plus sceptique sur les travaux de composition des jeunes Américains qui lui envoient leurs partitions. Pourtant, dit-il, ici et là apparaissent d'autres idées, de nouvelles sonorités assez personnelles évoquant la musique indienne. Je me rends compte combien il est possible à l'art musical de se développer dans ce pays. Depuis qu'il a découvert le chant de Hiawatha de Longfellow dans une traduction tchèque, Dvorak rêve, dit-il, de se hâter de dire ce qu'il entend vivant sur le sol américain. C'est la naissance de la 9e symphonie, appelée par son auteur le Nouveau Monde, composée entre janvier et mai 1893. J'ai tout simplement écrit des thèmes à moi, leur donnant la particularité de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges, et me servant de ces thèmes comme sujet, je les ai développés au moyen de toutes les ressources du rythme, de l'harmonie, du contrepoint et des couleurs de l'orchestre moderne. la création de cette symphonie du Nouveau Monde au Carnegie Hall en décembre 1893 lui vaut un triomphe spectaculaire, et celui-ci ne fait que débuter. L'influence de l'Amérique doit être ressentie dans ma symphonie par quiconque a du flair, dit-il. C'est une musique tchèque où parle le pays natal. Mais sans mon expérience américaine, je n'aurais jamais pu la créer. Durant l'été 1893, période de congé, Dvorak est d'abord tenté de rentrer au pays. Finalement, il fait venir ses autres enfants et part à la découverte des États-Unis en famille. 2000 km en train l'attendent. Il s'arrête, émerveillé, dans la petite localité de Spillville, dans l'Iowa, 350 habitants, village fondé par des immigrés venus de Bohême. Là, il retrouve l'esprit de son pays. Je me sentais bien parmi eux, ils m'aimaient tous, les vieux et les vieilles surtout, heureux d'entendre à l'église les chants religieux tchèques. Quel fantastique retour à la nature, quelle source d'inspiration que l'Amérique des campagnes. Cette nature si calme lui manque tellement lorsqu'il travaille dans la frénésie urbaine, lui qui est coupé depuis de longs mois maintenant du pays natal. Dvorak s'aventure aussi à Chicago, où il est accueilli par des vivas. D'autres œuvres américaines naîtront de ce périple à travers les États-Unis. Le quatuor dit « américain », deux quintettes, mais aussi une suite pour piano ou encore une sonatine pour violon et piano. Pourtant, à la rentrée 1893, au moment où Dvorak entame sa deuxième saison à la tête du conservatoire de New York, le cœur n'y est plus trop. Oui, la bohème lui manque. Et même si ses enfants sont venus, ils sont repartis. Même si on l'autorise à traverser l'Atlantique pour replonger quelques semaines dans ses racines, New York et les États-Unis, lorsqu'il les regagne, lui pèsent désormais. L'aventure américaine doit tôt ou tard s'achever. Et puis, les difficultés financières s'accumulent pour le conservatoire. Il a même du mal à être payé parfois. Pourtant, Madame Ferber fait tout ce qu'elle peut pour convaincre Dvorak de rester. Elle voudrait qu'il écrive un opéra américain. Elle voudrait qu'il se sente chez lui. Elle voudrait qu'il porte avec elle son combat pour la vie musicale new-yorkaise. Elle voudrait tout simplement qu'il s'installe pour toujours à New York. Vain espoir. Dvorak va s'acquitter de ses tâches, composer encore quelques pièces, puis rompre son contrat. À New York, Dvorak se sent désormais déraciné, déprimé, loin des siens et de ses sources d'inspiration. Sa production ralentit. Pourtant, le concerto pour violoncelle est une merveille. Mais lorsqu'il le compose, même s'il est encore installé aux États-Unis, dans son cœur, il est définitivement rentré en Bohème. Lorsqu'il fait son retour au pays, il reste à Anton Dvorak 9 années à vivre. Longtemps conservée, la maison new-yorkaise d'Anton Dvorak a été rasée en 1991 pour un projet immobilier, malgré les milliers de pétitions et malgré les protestations officielles du président de la République de l'époque, Václav Havel. Aujourd'hui, toute trace de Dvorak a disparu de la ville. Seule sa musique est là, pour témoigner de son installation à New York, née d'un télégramme surprise, reçu un matin de juin 1891. C'était Dvorak s'installe à New York, réalisation de Perrine Mingy, avec Géant Richard Dufour, Alain Joubert et Véronique Cardiles.
France Musique,
vous allez l'adorer.
Notre voyage avec Dvorak se poursuit, mais cette fois, retour de ce côté-ci de l'Atlantique.
We'll be right back. Oh,
Nous avons entendu de Dvorak, l'ouverture carnaval par le New York Philharmonic dirigé par Leonard Bernstein, la scène finale de Rusalka par René Fleming, Ben Heppner et la Philharmonie tchèque dirigée par Charles Mackeras, et deux mouvements de Cyprès par le Quatuor de Leipzig. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr où vous pouvez également réécouter et podcaster ces émissions. Comme si vous y étiez, avec la collaboration de Gilles Blanchard et Xavier Carrère, vous donne rendez-vous demain à midi sur France Musique. Au programme, Gluck s'en prend à la France.
À réécouter sur francemusique.fr.